La compagnie des auteurs ne pourrait avoir lieu sans son équipe indispensable. Anne-Vanessa Prévost, Corinne Amar, Didier Pinault, Gauthier Amiel et Laurence Millet, avec aujourd'hui à la technique Anthony Thomasson.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à tous, merci d'être là au menu de notre émission d'aujourd'hui et en cette journée de la langue française dans les médias. Nous vous racontons l'histoire d'un Égyptien qui a toujours écrit en français, Albert Kosri, 1913-2008. Il était tout le contraire d'un homme pressé. À vrai dire, il refusait toute la pression que la modernité met sur les hommes et les femmes et il a passé sa vie à en faire le moins possible. Enfin, du moins en apparence. En apparence, car il nous a tout de même laissé 8 très beaux livres dont il a peaufiné chaque phrase au rythme parfois d'une ligne par jour. Une œuvre que nous explorerons demain en détail avec l'universitaire David Paris ainsi qu'avec Joëlle Losfeld qui a été son éditrice. Mercredi, la réalisatrice et photographe Sophie Leys sera dans ce studio. Elle est partie en Égypte à la recherche de visages qui pourraient être ceux des personnages de Kosri et elle les a pris en photo. En seconde partie, la critique littéraire Aliette Armel nous rejoindra. Enfin jeudi, une émission spéciale enregistrée avec l'écrivain Patrick Chamoiseau. Entretien dans lequel l'auteur de Texaco nous a parlé des livres avec lesquels il s'est formé, au nombre desquels on compte Germinal de Zola, mais aussi L'automne du patriarche de Garcia Marquez ou Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. Et aujourd'hui,
ça passe. Moi, j'écris pour que si jamais mon livre a un impact sur quelqu'un, le lendemain, il ne va plus au bureau.
Et voilà tout le projet d'Albert Kosri résumé en une phrase. Convaincre ses lecteurs de ne plus aller au bureau. Lui qui n'y a jamais mis les pieds, comme nous allons le voir aujourd'hui avec Frédéric Andreau, qui a fait le récit de sa vie aux éditions de Courlevour. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
J'ai vécu selon mes désirs, c'est-à-dire que j'ai vécu selon la loi que je me suis tracée de vivre, de ne pas m'embrouiller l'esprit par une certaine métaphysique qui voudrait me faire croire ceci ou cela, et que j'avais ma propre voix, qui était une voix très simple. J'ai compris que la vie était une chose très simple.
Mais qu'il ne s'agissait pas uniquement de se laisser aller au gré des événements.
Non, mais peut-être aller vers des événements qui vous plaisent.
Bonjour Frédéric Andreau.
Bonjour.
Est-ce que vous tentez aussi d'appliquer cette philosophie de vie qui était celle d'Albert Kosri et d'aller uniquement vers les choses qui vous plaisent?
J'aimerais bien, mais je crois que c'est un peu le but de tout le monde, mais il faut pouvoir le faire et c'est vrai que l'oisiveté, l'inactivité n'est pas quelque chose qui, moi, me convient.
Non, vous n'êtes pas un inactif.
Non, ni oisif d'ailleurs.
Mais quand même, vous avez choisi d'être écrivain. C'est peut-être
vous trouvez que
aller...
Vous trouvez que c'est de l'inactivité?
Ah non, pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est peut-être aller vers ce qui vous plaît, suivre votre pente.
Oui, oui, c'est certain que je préfère faire ça que d'autres choses. Mais c'est ni oisif comme activité, ni inactivité, parce que c'est un travail presque de torture.
Ah.
De trouver des sujets et puis de s'y soumettre. Et puis, c'est une discipline, l'écriture quotidienne, enfin, en ce qui me concerne.
Alors, les sujets... Quelques jours avec Christine A en 2008, c'était Christine Angot,
oui,
chez Plomb. Hervé Guibert ou Les morsures du destin chez, oui, Séguier en 2015. Donc beaucoup d'écrivains, vous réécrivez,
oui,
des
je
d'écrivains.
Vais même vous livrer un scoop, c'est que mon prochain livre qui sort au mois d'octobre, toujours chez Séguier, retrace la vie de Régine de Forges. Donc ça s'appelle La femme liberté.
Ouais. Alors Angot, Kosri, Guibert, des écrivains. mais pas des romanciers. Et ça, Albert Cossery faisait bien la distinction entre les romanciers et les écrivains.
Pas des romanciers, en ce qui concerne Christine Angot aussi, c'était quand même une romancière. Guibert a écrit beaucoup de romans aussi.
Mais pas seulement des romanciers, disons.
Non, pas seulement. Peut-être que c'est la personnalité parallèle au romancier qui m'a inspiré et qui m'a intéressé.
Mais Cossery, lui, faisait bien la différence entre les deux.
Cossery faisait la différence entre les deux, oui, c'est vrai. Il était... est-ce qu'on peut dire qu'il était romancier accessoirement par rapport à l'homme qu'il était? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il a très peu écrit dans sa vie. Il a écrit, comme vous disiez, 8 livres, un livre de nouvelles et 7 romans, qui ont laissé une empreinte dans la littérature qui est indélébile. Ce qui est aussi révélateur, c'est que quand vous rentrez dans une librairie, il y a toujours dans un coin caché quelques livres de Cossery. J'ai fait l'expérience plusieurs fois dans des villes de province relativement peu acquises, a priori, à la cause de Cossery, et vous demandez... On a des livres de Cossery. On a l'impression que c'est quelque chose que les libraires se doivent d'avoir parce que il y a toujours quelqu'un qui peut découvrir, avoir envie de découvrir Cossery.
Mais pour revenir sur cette distinction romancier-écrivain, Cossery disait, je crois, que pour lui, un romancier peint des héros, alors qu'un écrivain dépeint des anti-héros. Et c'est peut-être en cela qu'il était davantage écrivain que romancier.
Oui, il s'est beaucoup intéressé effectivement aux anti-héros, comme vous dites, c'est-à-dire aux gens, au petit peuple, ce qu'on appelle d'une façon à la fois péjorative et très précise le petit peuple. Et je pense que cette passion du petit peuple, cette espèce de fascination, il l'a nourri très très tôt. Quand il était enfant, il a très très vite découvert la littérature. Il était passionné par plusieurs auteurs français et aussi par des écrivains russes. Notamment Dostoïevski et Gogol. Alors on peut citer 2 livres. Du premier, on peut parler des pauvres gens. Et de Gogol, on peut citer Les âmes mortes, qui sont 2 livres dans lesquels, effectivement, on retrouve des descriptions de la misère, du petit peuple, de gens qui luttent pour leur survie d'une façon très précise. Et je pense qu'il a tiré de ces livres-là une source d'inspiration et une envie d'aller s'intéresser davantage à la misère. Ou aux misères au pluriel. Et c'est vrai que quand il était enfant, il vivait au Caire, dans un quartier plutôt favorisé, parce que son père était petit commerçant, mais donc, par rapport à l'époque, il avait quand même des revenus conséquents. Mais dès qu'il avait un moment libre, il traversait le Nil pour aller de l'autre côté, explorer les quartiers où la misère était la plus fréquente. Et on a l'impression que quand il était enfant, alors qu'il n'écrivait pas encore, il a emmagasiné un certain nombre d'images, un certain nombre de personnages qu'il a restitué au gré de ses romans. Et ces livres sont d'une précision, enfin l'écriture est d'une précision incroyable. On retrouve, j'ai toujours dit que ça agissait pour moi comme un appareil photo. C'est-à-dire qu'on lit, on lit un texte de Cossery, on a l'image devant les yeux, on a le profil des gens, on a presque les odeurs de l'atmosphère de ces quartiers du Caire. Et donc, c'est très amusant pour un enfant qui aurait pu faire plein d'autres choses dans ses temps libres, d'aller traverser et d'aller se nourrir de cette misère qui n'était pas la sienne, finalement.
On va y revenir justement à ces années d'enfance d'Albert Cossery. Vous parlez des écrivains qui l'ont formé. On pourrait rajouter, alors pas des écrivains qui l'ont formé, mais des écrivains qui ont réellement compté pour lui. On pourrait rajouter le nom de Jean Genet, qui était, pour Cossery, le dernier grand écrivain que la France avait connu.
C'est son expression, oui. Bah, Jean Genet, ils se connaissaient... Enfin, il faudrait raconter la vie de Cossery et celle de Genet, mais enfin, c'était quand même des gens qui avaient le sens du plaisir dans la peau et qui sortaient beaucoup, l'un et l'autre, alors pas dans les mêmes endroits, parce que Genet fréquentait plutôt des boîtes dites homosexuelles à l'époque, et Cossery était plus attiré par les jeunes filles et les cabarets.
Il trouvait même que l'homosexualité, finalement, enfin, quand il en parlait de manière un peu péjorative.
Oui, parce que c'était pas dans ses schémas. Mais cela dit, bon, Genet, il se croisait au petit matin, l'un revenait de ses endroits de plaisir, l'autre rentrait de ses propres endroits à lui. Et donc, effectivement, ils se sont connus comme ça, mais ils avaient beaucoup de points différents. Cossery, sans se l'avouer, était quand même assez fasciné par l'engagement de Jean Genet. Lui qui a été incapable d'avoir un engagement, finalement. Il a jamais...
Il aurait voulu en avoir un ?
Oh bah, c'était fatigant. Donc, on n'allait quand même pas se mettre dans une situation de fatigue.
Oui, mais peut-être que derrière tout cela, il y avait quand même une envie de dépasser cette fatigue et de s'engager.
C'est difficile à dire. C'était, vous savez, il a vécu quand même 60 ans à Paris en écrivant 7 livres. Donc on peut facilement déduire qu'il y avait beaucoup de temps libre. Et ce temps libre, il l'a consacré à quoi? Il l'a consacré à observer. Moi, je l'ai croisé, enfin, sans savoir que c'était lui à l'époque, mais je le voyais plusieurs fois dans les cafés à Paris, à Saint-Germain-des-Prés, ou sur une chaise au Luxembourg. Il s'asseyait, puis il regardait. Il regardait le monde, il regardait les gens, il râlait beaucoup, parce que c'était un caractère très difficile. Et donc, forcément, c'était quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de cultivé, forcément qu'en observant les gens, il voyait les travers de la société. Et forcément qu'il devait parfois avoir des pulsions, de se dire, mais là, il faut se révolter, là, il faut... Mais il n'avait pas le courage de le faire. Ou alors il laissait ça aux autres. Il y avait des gens qui avaient une voix pour le faire, lui, il se contentait d'écouter ce qui se disait, de critiquer, mais il n'a jamais été actif dans la lutte ou dans le combat ou dans l'engagement.
Enfin, il disait qu'il n'avait pas envie, il ne parlait pas de courage. Pour lui, c'était une revendication finalement de ne pas s'engager.
Il n'a jamais dit qu'il n'avait pas envie, il ne l'a pas fait.
Je suis né au cœur et ma première impression d'enfance qui a fait mon destin, c'est un mot. C'est le nom d'une petite ville de France qui s'appelle Montauban. J'avais une gouvernante française, une vieille dame qui s'appelait Madame Joséphine, qui était de Montauban. Et quand j'étais tout petit, j'entendais toujours Madame Joséphine parler de Montauban. Et c'est le premier souvenir, le premier nom d'une ville française que j'ai enregistré dans ma mémoire. Je vis dans un milieu bourgeois. Mon père était propriétaire foncier. Il avait des terres à Damiette et il ne travaillait pas, il ne faisait pas autre chose. J'ai eu une chance inespérée, c'est d'avoir des frères qui étaient plus âgés que moi. Et ces frères étaient eux-mêmes, disons, intellectuels ou qu'ils aimaient la littérature. Et donc les premiers livres que j'ai eus sous la main, étant enfant, c'était déjà des livres pour grandes personnes. Et c'est comme ça qu'à l'âge de 7-8 ans, je lisais déjà Musset, Baudelaire. À l'âge de 10 ans, je lisais Dostoïevski. Je lisais même Valéry. Et je dois beaucoup à cette situation.
C'est la Compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture. Nous parlons d'Albert Cossery, qui est donc né au Caire un jour d'automne 1913 dans une famille, il vient de le dire, plutôt aisée, Frédéric Andrault, dans le delta du Nil, à Damiette. Qu'est-ce qu'on peut dire de son père, qui était apparemment un personnage assez extraordinaire?
Son père et son grand-père, en fait, la structure familiale, c'était donc une maison avec un étage dans laquelle vivait Albert, ses frères, ses parents, son père et sa mère, et son grand-père. Le père était effectivement propriétaire foncier, il n'était pas cultivateur, mais il faisait cultiver pour lui.
C'est une famille où on fait
oui,
faire aux
les
autres.
Hommes, hein. Les hommes font travailler les autres. Et le père Cossery faisait récolter du coton, faisait récolter des dattes, faisait récolter des pastèques. Et d'ailleurs, il avait, c'est une anecdote, mais c'est amusant, il passait du temps à aller sur les marchés pour repérer ses pastèques et comparer si c'était bien les plus belles du marché. Il les repérait comme ça. Enfin, pour lui, c'était obligatoirement les plus belles.
Il faut dire qu'il n'avait rien à faire de la journée.
Absolument, mais aucun homme avait quelque chose à faire de la journée. Alors c'est vrai qu'Albert lisait, et les frères lisaient aussi. La précision, c'est qu'ils avaient des cousins à Paris qui étaient assez introduits dans le milieu de l'édition et ils recevaient des cartons de livres neufs au Caire, bien avant certaines personnes, et il se précipitait là-dessus. Et Albert lisait les livres que ses frères avaient déjà lus, donc Balzac, Voltaire, enfin bon, il l'a dit tout à l'heure. Le père, donc, faisait travailler les gens. La mère était une femme, donc, inexistante.
Il l'était, paraît-il.
Il avait une sœur aussi, dont on ne parle pas beaucoup, parce qu'on ne parle pas des femmes dans la structure familiale égyptienne à l'époque. Et il y avait le grand-père, qui était quand même un personnage assez incroyable, parce que le grand-père son statut de patriarche faisait que tout le monde était à son service. Et un jour, cet homme a décidé qu'il ne descendrait plus du premier étage, que c'était plus à lui de descendre pour se nourrir, mais que c'était aux autres de monter pour lui apporter tout ce dont il avait besoin. Donc le schéma de l'homme dans l'esprit du petit Albert qui avait 10 ans, c'était ça. C'est-à-dire qu'un homme pouvait décider, un caprice, de ne plus faire quelque chose et d'obliger toute la structure autour de lui à se mettre à son service.
Et il a toujours considéré que c'était très bien. Il a toujours considéré que c'était un modèle de vie.
Oui. Donc après, il a passé sa vie. Alors, il a voulu faire croire que l'oisiveté était un art de vivre.
Est-ce qu'il y croyait lui-même ?
J'en suis pas certain.
Parce que vous disiez quand même tout à l'heure, c'était quelqu'un quand même de ronchon, qui souriait jamais. Enfin, parfois, on lui arrachait un sourire, mais c'était vraiment une erreur de sa part d'avoir laissé échapper ce petit sourire-là.
Il y avait que les belles femmes qui arrivaient à le faire sourire. Il était très sensible à la beauté, à l'intelligence, et par opposition, il ne supportait pas la laideur. Il pouvait être avec des gens laids, d'une méchanceté incroyable. Mais en revanche, à l'inverse, une femme belle lui soutirait une expression de bonheur. Et même très âgé, quand il avait plus de 90 ans, il voyait une belle fille traverser la rue, il la regardait et il retrouvait un éclat dans l'œil qui était incroyable. C'était son plaisir, c'était ça. Et d'ailleurs, alors, je sais pas si on peut raconter un peu son arrivée à Paris. Enfin,
je pense qu'on va y arriver, peut-être terminer sur ce moment égyptien. Donc, il va à l'école dans le quartier de Fégala, le français, de par sa famille, est réellement la langue qu'il aime, beaucoup plus que l'anglais, par exemple.
Oui, tout à fait. Bah, c'est une fierté. D'abord, il a dompté le français à travers la littérature, ça c'est vrai. Et après, il en a fait presque une carte de visite. C'est-à-dire que être au Caire, maîtriser le français, puis il avait aussi pour ambition d'être écrivain. Donc, pour lui, l'écrivain... Le milieu de l'écrivain, c'était Paris, c'était Saint-Germain-des-Prés. Donc, c'était une fascination, la France et le français. Et donc, il a mis un point d'honneur aussi à maîtriser le mieux possible cette langue pour se donner une crédibilité ou une légitimité d'écrivain.
Je vivais dans la ville, qu'on surnommait la ville européenne, parce qu'elle était fréquentée surtout par les Européens ou des bourgeois égyptiens, parce qu'il y avait aussi des très riches égyptiens et des bourgeois égyptiens. Et ça n'avait rien à faire avec l'Égypte. L'Égypte, c'était les quartiers populaires. C'est là où je me retrouvais. C'est-à-dire que je vivais aussi avec le peuple. Toutes mes nuits, et puis ensuite, j'avais aussi un petit appartement dans une vieille maison, près de la citadelle. Je n'y habitais pas, mais j'y allais souvent. C'est-à-dire presque chaque jour, la nuit. J'avais des amis peintres qui avaient d'autres aussi appartements, là... C'était ça la merveille, c'est qu'en Égypte, je vivais une double vie. Chez Fichat, je parlais en arabe et chez Gropi, je parlais en français. Nous allions vers midi pour l'apéritif. Mais tout le monde se rencontrait. Ce qu'il y avait de bien aussi dans cette ville européenne, c'est que comme était composée de deux ou trois rues fréquentables, et donc, vous rencontriez tous vos amis chaque jour dans la rue ou dans les cafés.
C'est donc un jeune homme, un kérote, qui se lance dans l'écriture, même si le verbe « lancer » n'est peut-être pas celui
qui convient. Ça ne lui a jamais vraiment convenu, le verbe « lancer ». Il disait que l'ambition d'être écrivain était la seule ambition qui méritait d'être poursuivie. Et donc, effectivement, il a toujours eu cet axe-là dans sa vie. Et on parlait de café tout à l'heure, et il y avait au Caire un café qui s'appelait le Café des Miroirs, où se retrouvait la société littéraire de l'époque. La société littéraire du Caire, qui était composée de gens comme Georges Hénin, Edmond Yabès, Ramsès Younan.
Qui étaient ses amis.
Qui étaient ses amis.
Ses amis poètes.
Et dont il cherchait à intensifier l'amitié, encore une fois, pour donner cette légitimité d'écrivain. Il appartenait à la société littéraire du Caire. Et ensemble, ils nourrissaient une espèce d'idéal, c'était que le vent de la liberté, le vent du rêve, puisse souffler sur chaque créateur, sur chaque écrivain. Donc c'était un peu l'embryon du mouvement surréaliste. Et donc ils se chauffaient comme ça les uns les autres, ils nourrissaient cet idéal-là, et Cosri certainement ambitionnait d'exporter ça avec lui en France quand il allait venir pour y mener, bah pour tenter d'y mener une carrière d'écrivain.
L'irrationnel, le rêve, oui, la révolte, l'absurde, c'est ça des mots qu'on peut utiliser pour caractériser ce groupe d'amis, de
oui,
poètes.
Et puis il y avait aussi une donnée, une caractéristique importante, c'est que le français, la culture française et la langue française dominaient dans ce petit groupe-là. Donc c'était une identité de plus pour Cossery.
Alors c'est un poète au départ.
Oui, il a écrit des poèmes qui n'ont pas été publiés en France, en tout cas. Ça a été édité au Caire. Ça s'appelait, ça a été regroupé sous un titre qui s'appelait La Morsure. Mais Cossery avait un personnage qui était tellement, ambigu, pas calculateur, cherche le terme. Enfin, il était capable de faire croire prendre des vessies pour des lanternes. Personne n'a jamais vraiment su finalement si ses poèmes avaient été édités au Caire, mais il l'a raconté tout le temps. Et c'est vrai que moi j'ai rencontré quand mon livre est sorti, j'ai rencontré beaucoup de gens qui me disaient mais quel dommage que ces poèmes n'aient jamais été réédités en France. Mais pourquoi ils n'ont jamais été réédités en France? Est-ce qu'ils existaient vraiment? Parce que je pense qu'un éditeur, et je pense à Joël Losfeld, que vous avez cité tout à l'heure.
Et qui viendra demain.
Et que je salue au passage, puisque c'était quelqu'un que j'aime beaucoup. Je pense que si Joël avait pu mettre la main sur ses poèmes, elle les aurait réédités, forcément. Mais pourquoi est-ce qu'elle ne l'a pas fait? Pourquoi? Vous lui poserez la question demain, peut-être.
Alors, il aime les surréalistes, il rêve de Paris, mais la rencontre déterminante, c'est peut-être celle de Lorenz Durrell,
ouais,
à cette époque-là.
Alors, Albert Cossery, un jour, a eu envie de quitter le Caire et il a trouvé comme moyen, lui qui n'a jamais travaillé, de se faire engager comme steward sur une compagnie de navigation maritime.
Ce sera peut-être son seul travail salarié durant toute sa vie.
Pas tout à fait. Il y en a un autre que je vous révélerai tout à l'heure aussi, et qui est assez peu connu et assez croustillant. Donc, il s'est fait engager dans une compagnie de navigation maritime et il a été, dans un premier temps, affecté à la ligne Port Saïd-New York. Et donc forcément, il rencontrait des personnalités et il a rencontré Lorenz Durrell au cours d'une traversée. Et c'est vrai qu'il était beaucoup plus intéressé par, encore une fois, nourrir ses relations littéraires que d'aller passer des plateaux ou des boissons aux passagers. Et grâce à Lorenz Durrell, avec qui il a vraiment entretenu et développé une amitié, il a rencontré Henri Miller. Et Henri Miller a eu un rôle déterminant dans le lancement de sa carrière parce que il l'a vraiment encouragé à faire publier ses nouvelles et à lui donner confiance en son écriture, etc. Et je crois que c'est vraiment grâce à Miller que son premier livre de nouvelles a été publié.
Voilà, Les hommes oubliés de Dieu.
Oui, c'est un des très beaux titres, parce que je crois qu'une des caractéristiques de Cossery, faut dire qu'il avait le temps de les choisir, ces titres, mais c'est que ces 8 titres de livres sont tous magnifiques. Et Les hommes oubliés de Dieu, c'est l'explication du titre est donnée d'ailleurs dans une des nouvelles. Un enfant demande à son père, papa, pourquoi sommes-nous pauvres? Et le père lui répond, mon fils, parce que Dieu nous a oubliés. Et le fils lui dit, ah bon, mais ça va durer longtemps. Et le père lui répond, mon fils, quand Dieu oublie quelqu'un, c'est pour toujours.
Et on sent quand même, malgré le choix pour l'oisiveté, le choix de la liberté, toujours chez Cossery, cette forme de détresse que le titre finalement résume bien, celui que vous venez de citer, Les hommes oubliés de Dieu. Mmh. Et oui. Lui-même, était-il un homme oublié de Dieu?
Il n'a jamais vécu dans l'opulence. Hein. Il n'a jamais vécu dans l'opulence.
Mais il aurait pu, son père était rentier.
Oui, il aurait pu, mais c'était pas la vie qu'il avait envie d'avoir. Il a voulu partir, vivre en France. Et quand on arrive en France et qu'on a comme seule ambition de devenir écrivain, c'est pas forcément très lucratif dans un premier temps. Et en plus, quand on écrit 7 livres en 60 ans, ça l'est encore moins.
Alors, il arrive à Paris hein, en 1945. C'est la fin de la guerre à ce moment-là, Frédéric Andreau.
Alors, il a d'abord fait un premier séjour en 1938, puisqu'il avait dit à ses parents qu'il voulait venir étudier à Paris. Donc, il est venu une première fois à Paris. Et là, ça a été la découverte, la fascination de la ville des Lumières. C'était magnifique. Il voulait absolument tout découvrir. Et il a passé beaucoup plus de temps à regarder les belles femmes parisiennes, à découvrir les endroits de plaisir qu'à étudier. Et au bout de quelques mois, les finances commençaient à être un peu compliquées. Et puis, il y avait eu aussi, je pense, une culpabilité. Alors, ça lui ressemble pas beaucoup, mais il y a un sentiment de culpabilité qui a fait que il a décidé de repartir au Caire. Puisqu'il était venu à Paris pour étudier et qu'il n'étudiait pas, il a voulu repartir au Caire. Et il est effectivement revenu en 1945, par donc toujours ce métier de steward. Après avoir été sur Port Saïd New York, il a été nommé sur Port Saïd Marseille. Et un jour, il a décidé de ne pas retourner, de faire le voyage aller, pas le voyage retour. Il a enlevé ses galons dorés, il a pris le train, il est monté à Paris pour devenir écrivain.
Et donc, il publie cette fois à Paris directement.
Alors, il a publié son premier livre à Paris en 1947, La maison de la mort certaine. Encore un beau titre, hein, au passage. Et puis après,
l'édition Masse, qui était fondée par son ami Georges Hénin.
Exactement. Et ensuite, il y a eu d'autres livres. En 48, il a publié Les fainéants dans la vallée fertile. Et son livre phare, il ne l'a publié qu'en 55, c'était Mendiants et orgueilleux.
It's a lonely night in Paris. Where's my love of yesterday? The Rue Saint-Honoré, where once we had walked together, seems as bleak as a sidewalk cafe in cold rainy weather. It's a lonely night in Paris. Gay Paris is not so gay. C'est la vie is gone, and gone are the dreams we might have known. It's a lonely night in Paris, and I'm alone.
La compagnie des auteurs sur France Culture. Nous parlons avec Frédéric Andreau, d'Albert Cosseri. Il faut parler un peu de l'hôtel, Frédéric Andreau, parce que l'hôtel, c'est la mythologie d'Albert Cosseri, cet hôtel dans lequel il va vivre pendant plus de 50 ans, 56 ans, je crois. Et tout à l'heure, vous disiez qu'il avait commencé par faire quelques allers-retours entre la France et l'Égypte. Et finalement, il va rester en France, il va décider de ne plus revenir en Égypte. Et au départ, il fait des allers-retours aussi entre la rive droite et la rive gauche, parce qu'il a une chambre à Montmartre et qu'il sort le soir à Saint-Germain-des-Prés. Puis un jour, il est fatigué, il n'a pas envie de rentrer rive droite.
Oui, c'était loin quand même. D'abord, il n'avait pas beaucoup d'argent, ça c'était une première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est qu'il était un peu radin. Et la troisième caractéristique, c'est qu'il passait beaucoup de temps à séduire. C'est vrai qu'il était... Il faut remettre le personnage à l'époque, c'est quelqu'un de très beau, très séduisant, un regard brun, puissant, enfin...
Un vrai dandy aussi.
Exactement. Toujours très bien mis. Donc c'est vrai qu'il il a eu ce pouvoir de séduction sur les filles qui était assez frappant. Et donc, il avait... par opportunité, récupérer une chambre meublée à Montmartre. Et c'est vrai que tous les jours, il descendait à Saint-Germain-des-Prés à pied, parce que son ambition était quand même la littérature, et que pour, évidemment, pour la littérature, c'était Saint-Germain-des-Prés. Donc, une fois qu'il était à Saint-Germain, il était plus intéressé par les jeunes filles que par les éditeurs, ce qu'on peut comprendre un petit peu. Hein. Et du coup, il leur proposait, il leur disait, mais j'ai un appartement, si vous voulez, pour celle qui était très, qui lui plaisait beaucoup, il leur proposait de les ramener, de le suivre chez lui, mais il disait pas où c'était chez lui. Donc il partait et il traversait Paris à pied avec les jeunes filles. Alors celles qui étaient très très amoureuses allaient jusqu'au bout, mais pas toutes. Donc il s'est aperçu que la distance était une entrave à son jeu de séduction. Donc il s'est dit, il n'y a pas de solution, il faut que je trouve quelque chose à Saint-Germain-des-Prés. Donc il est rentré dans un hôtel.
Mais c'est pas n'importe quel hôtel.
Pas du tout, l'hôtel de la rue de Seine, qui s'appelle la Louisiane, qui était un hôtel mythique parce qu'il y avait plein de musiciens qui venaient. Enfin c'était un...
Parce que Miller en parlait aussi. Dans Tropique du Cancer.
Exactement. Donc il a choisi cet hôtel-là à dessein et il est arrivé à la réception en demandant une chambre. Alors, comme non. Pour tout voyageur, il n'y a pas de bagages. Hein. Il est arrivé comme ça avec son costume et sa cravate. Donc on lui a fait remplir une fiche, on lui a demandé son passeport qu'il devait avoir sur lui et on lui a demandé pour combien de nuits, monsieur. Et il a répondu, je ne sais pas. Et je ne sais pas, ça a duré 56 ans quand même.
Alors, jamais aucun client n'était resté aussi longtemps. Il a quand même réussi à user trois directions successives. Il faut dire qu'à l'époque, il y avait des baux qui faisaient qu'on ne pouvait pas renvoyer les clients.
Alors, ce qui était amusant, c'est qu'effectivement, ça a été très lourd pour l'hôtel, hein, parce qu'effectivement, les lois protégeaient donc sa présence à l'hôtel. On n'a pas pu le mettre dehors. Et puis, il a été ordurier parfois, hein, avec les gens de l'hôtel. Enfin, un jour, ils avaient besoin de rénover la chambre dans laquelle il était depuis des années, parce que c'était quand même une chambre qui était exiguë et donc qui s'était assez rapidement salie. Donc on a voulu le changer de chambre, il s'y est opposé farouchement. Et il avait une telle imagination qu'il est allé raconter des choses complètement fausses, en disant, alors on l'a changé du 5e au 7e, les gens savaient, enfin, l'hôtel avait besoin de donner un coup de frais à cette chambre-là, et il était encombrant, comme un meuble qu'on n'arrive pas à bouger.
Comme un cancre-là, disaient certains.
Comme un cancre-là.
Des directeurs de l'hôtel qui se sont succédés.
Ah, mais moi, j'ai rencontré encore, il n'y a pas très longtemps le dernier, on a reparlé de Cosserie, là, il y a quelques semaines, et c'était un souvenir terrible pour lui, hein, parce que le déménagement. Alors, faut aussi savoir une chose, c'est qu'il avait très peu de choses. Donc, le déménagement, ça n'a pas pris 3 jours. C'était 3 cartons, le déménagement. Donc, monter 3 cartons du 5e au 7e, de la 58 de mémoire à la 77, c'était pas quelque chose d'insurmontable. Eh bien, il a trouvé le moyen, non seulement de protester, la direction a trouvé un argument fabuleux pour le convaincre, c'était de lui dire « mais vous serez encore plus haut, donc beaucoup plus proche du soleil ». Lui qui était fasciné par le soleil, quand manquait à Paris, dès qu'il y avait un rayon de soleil, il se mettait dans le rayon de soleil pour bronzer et prendre cette peau burinée qu'il avait. Et il s'est dit « ah oui, c'est vrai, je vais être au 7e, beaucoup plus près du soleil, donc j'y vais ». Mais il a quand même trouvé le moyen d'aller raconter qu'entre dans le déménagement, on lui avait perdu toute sa correspondance avec Blaise Cendrars. Vous imaginez quand même, 2 étages, hein. Perdu toute sa correspondance avec Blaise Cendrars. Mais il y a fort à parier qu'il n'a jamais eu de correspondance avec Blaise Cendrars. Mais c'était un moyen pour enquiquiner la direction de l'hôtel et faire culpabiliser. Ça a marché, hein, parce que, oh mon Dieu, où est passée la correspondance de Blaise Cendrars? Et on ne l'a jamais retrouvée, parce qu'elle a sans doute jamais existé.
En tout cas, pour payer l'hôtel, évidemment, il n'avait pas d'argent. Hein.
Ah non?
Donc il demandait à certains de ses amis de lui offrir des œuvres d'art,
ouais,
de lui payer des restaurants. Il n'a jamais payé le restaurant, ou à peu près
non,
jamais.
Non, il avait un compère qui s'appelait Robert Anselme. Robert Anselme était petit et trapu, et Cosserie était grand et élancé. Donc ils avaient une espèce de silhouette à la Laurel et Hardy, comme ça. Et ils avaient mis un scénario qui était de déambuler boulevard Saint-Germain devant toutes les terrasses des restaurants. Et puis on les repérait, parce que un était très bien mis, l'autre avait un côté jovial qui était assez attirant. Et il cherchait, Cosserie a cette capacité aussi à se faire apprécier des gens, à se faire remarquer. Et des gens disaient, tiens, ben Albert, allô, viens. Et donc il venait s'installer à la table et il se faisait offrir des verres. Et souvent, il se faisait inviter à dîner. Et son exercice quotidien, les seuls rendez-vous qu'il avait, les seuls impératifs qu'il avait à son agenda, c'était à midi et à 19h d'aller parcourir les boulevards pour trouver le moyen de se nourrir à bon prix en se faisant inviter.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Et nous allons continuer de parler avec vous d'Albert Cosserie, Frédéric Andromé. Tout de suite, c'est le moment tant attendu, disons-le, dans Compagnie des Revues. Comme chaque jour, nous allons prendre des nouvelles de nos confrères de la presse littéraire, et aujourd'hui en particulier de la revue Page, qui est la revue des libraires en fait. C'est avec vous, Georges-Marc Habib. Bonjour Georges-Marc.
Bonjour Mathieu.
Alors ça vous enchante cette semaine sur Cosserie, j'imagine?
Moi j'adore Cosserie. Ça a été ma vraie découverte de démarrage de mon métier de libraire. Et justement avec les rééditions de Joël Losfeld, dont on en parlait tout à l'heure, et notamment ce texte extraordinaire, Mendiants et Orgueilleux, que j'ai relu mais moult fois.
Et pourtant, vous êtes un gros travailleur, vous. Alors je ne comprends pas, lui, bah, qui prenait la paresse.
Bah, écoutez, je crois qu'on adore nos opposés, donc c'est un peu l'idée, quoi. Et il le faisait très bien, hein, ça prenait cette paresse-là, était merveilleuse. Et puis son narrateur dans Mendiants et Orgueilleux était plus qu'un paresseux.
Alors comme vous êtes un gros travailleur, et bien vous avez décidé de nous parler aujourd'hui de 3 livres. 3 genres, 3 auteurs différents, Georges-Marc.
Je vais essayer de vous parler de livres qui, pour moi, sont un peu en résonance avec le travail de Cosserie. D'abord, le dernier livre de Peter Stamm, qui est un auteur suisse-allemand, qui a fait paraître chez Christian Bourgois, L'un l'autre, un texte très étonnant qui met en scène Thomas, qui, au retour de vacances, avec femme et enfant, il est le soir, il boit un coup avec sa femme rentre s'occuper du petit dernier, lui tout d'un coup se lève, sort de son jardin, regarde à gauche, à droite, et s'en va. Rien n'est déterminé, rien n'est prédestiné. Il décide de prendre la route, il traverse comme ça son village, son pâté de maison, son village, sa ville, son canton, et il part comme ça à travers la montagne. Et évidemment, tout le monde se demande, mais où est-il donc passé, quoi? Et Peter Stamm a ça de merveilleux dans son bouquin, c'est qu'il nous fait, donc il nous donne à suivre cet homme-là, Thomas, qui part comme ça, qui décide de tout lâcher pour une raison complètement inconnue, hein, puisque même le long de sa pérégrination ne saura pas pourquoi. Et en même temps, on va suivre le quotidien de sa femme qui, elle, est restée et qui va l'attendre toute sa vie. C'est vraiment ce personnage un peu mythique qui m'a fait vraiment penser aux œuvres de Cosri.
Deuxième choix, c'est le dernier livre de Rosa Montero.
Alors Rosa Montero, c'est une auteure espagnole que moi, je n'avais jamais lue, donc pour moi, ça a été une découverte, La Chair, édité chez Métellier. Et là, elle nous met en scène une narratrice assez incroyable qui aurait certainement plu à Albert Cosri. Sa narratrice s'appelle Soledad, elle a 60 ans, elle a une vie amoureuse riche, elle ne s'est pas vue vieillir, évidemment, elle est commissaire d'exposition, elle prépare une magnifique exposition à la Bibliothèque Nationale d'Espagne sur les écrivains maudits, là aussi, tiens, écrivain maudit, Cosri, ça résonne quand même. Et puis, son amant la quitte. Donc, pour se venger, elle décide d'embaucher un escorte. Qui a 30 ans et qui est russe, qui est jeune, qui est beau, qui est vrai et faible. Et elle va décider de parader avec lui à l'opéra pour faire rager son ex-amant qui est présent à l'opéra avec sa femme. Bon. Mais en même temps, se payer un escorte pour l'accompagner à une soirée à l'opéra, pourquoi pas. Mais passer la nuit avec lui, bon, une fois qu'on a payé, pourquoi pas. Mais tomber amoureuse de lui, c'est un peu plus gênant. Et voilà, c'est ça dont va nous parler Rosa Montero, c'est comment à 60 ans, comment est-ce qu'on tombe amoureuse encore à 60 ans, comment on s'accepte en tant que femme avec ses désirs, et comment est-ce qu'on accepte là aussi de tomber amoureuse de jeunes gens et le regard des autres sur soi. Et en même temps, à côté de ça, elle va nous parler de son exposition, de ces écrivains maudits qu'elle essaye de mettre en scène dans son exposition. C'est un texte que j'ai adoré.
Et pour terminer, Georges Marc, un autre texte tout aussi brûlant que le précédent.
Oui, Caryl Ferré, qui est un auteur de polar chez la série Noire, sort un livre chez Albin Michel qui s'appelle « Pourvu que ça brûle ». Caryl Ferré nous raconte son parcours d'écrivain. Il nous raconte comment, à 16-17 ans, dans sa petite campagne, il avait le désir de sortir de sa condition, Albert Cosri, là aussi, et de devenir écrivain. Et comment est-ce qu'on devient écrivain? Et en même temps, il savait qu'il y avait deux choses qui allaient le porter, c'est l'écriture, mais aussi le voyage, à l'inverse de Cosri. Et donc, il a voyagé à travers tout le monde, il a embarqué avec lui ses amis, et il va nous raconter dans ce livre comment il a construit chacun de ses livres, quel voyage il a fait, avec qui il les a fait, et comment tout ça a forgé sa carrière d'écrivain qui, au bout de 20 ans d'écriture, on finit par rencontrer le succès avec son texte, notamment, qui s'appelle Zulu, édité chez et Série Noire, qui est là aussi une grande œuvre.
Frédéric Andreau, est-ce que Albert Cosri lisait ses contemporains?
Non, pas du tout. Il lisait pas du tout. Alors évidemment, dans le milieu littéraire, parce qu'il a fini quand même par s'y faire un trou, il était de bonne guerre de s'envoyer les livres. Donc il recevait beaucoup de livres à l'hôtel, mais il les ouvrait jamais. Il les lisait pas parce que ça lui évitait d'abord, c'était fatigant de lire, hein, donc il fallait consacrer un peu de temps. Et c'était autant de temps qu'il ne consacrait pas à l'oisiveté, donc à son art de vivre. Et puis ça lui évitait d'abord d'avoir à remercier les gens, parce qu'il avait pas du tout, il avait pas de considération pour les autres, hein. Il y avait vraiment, il voulait même pas savoir, enfin il s'y intéressait pas, ça lui évitait d'avoir un investissement à faire en termes de remerciements, d'amitié, de retour, etc. D'ailleurs, dans sa chambre d'hôtel, il ne gardait aucun autre livre que les siens, traduit dans certaines langues étrangères. Mais il y avait une relation avec Camus assez proche, il recevait les livres de Camus, il n'en a jamais lu un. Ça lui évitait aussi la comparaison. Donc il n'avait pas...
Et puis, et à la fois, on se demande comment cet écrivain, qui a une écriture quand même superbe, qui sait planter des décors, qui sait raconter des histoires, qui a une vision même philosophique, a pu y arriver simplement sur ses lectures de jeunesse, sans se nourrir jamais, finalement, de beaucoup de littérature à part la sienne.
Oui, c'est très amusant, parce que on peut dire que ce qu'il a emmagasiné dans son enfance, dans sa jeunesse, a nourri toute son œuvre sur 60 ans. Et d'ailleurs, je sais pas si on reparlera de Naguib Mahfouz un peu plus loin, un peu plus tard.
Son compatriote égyptien.
Oui, on les a souvent comparés, ce qui d'ailleurs le mettait, le comparer. On a souvent pris Khosri pour Mahfouz. On lui a demandé plusieurs fois, est-ce que vous êtes bien monsieur Mahfouz? Donc ça le mettait hors de lui parce qu'ils avaient absolument rien en commun.
Pourtant, c'est quand même pas mal aussi Mahfouz.
Ah bah, c'est même très bien. Mais, notamment l'impasse des deux palais. Enfin, je sais pas si vous avez ça en tête. Et moi, je l'ai très précisément. Ce qui était très amusant entre les deux, c'est que Mahfouz a effectivement décrit l'Égypte, mais depuis l'Égypte, c'est un écrivain égyptien depuis l'Égypte. Khosri a écrit toute sa vie sur l'Égypte en dehors de l'Égypte. Donc ils avaient vraiment cette différence qui était fondamentale, quoi.
Eh bien, merci, Georges Marc.
Ben non, je vous en prie.
Si on veut se procurer donc votre revue, Page, comment fait-on ?
Eh bien, on va en librairie ou on va sur le site internet pagelibraire.fr.
Et voilà. C'est la suite de la Compagnie des auteurs. Nous parlons d'Albert Khosri avec Frédéric Andreau, qui a fait le récit de sa vie aux éditions de Corlevour. Albert Khosri, l'auteur notamment, on l'a dit, du roman Les hommes oubliés de Dieu. Un extrait.
Il était près de minuit. La ville européenne, malgré ses immeubles à 8 étages avec ascenseur et eau courante, ses cafés largement éclairés et ses prostituées lassant les trottoirs par leurs allées et venues, semblaient la proie d'un ennui morne, inachevé, né du doute et de la médiocrité des plaisirs. On sentait que la ville voulait vivre, qu'elle avait tout pour cela, mais qu'une sorte de détresse intérieure, impitoyable, la tenait immobile, avec ses lumières forcées, ses femmes stupides et son aisance criminelle. Elle avait la parfaite apathie d'un monstre repu. Elle dévorait tout. Elle s'étendait avec une rage constante. De partout, on la voyait venir. Elle poussait dans le désert. Elle poussait dans les palmeraies et dans les îles de l'autre côté du fleuve. On ne pouvait plus l'arrêter. C'était une floraison d'immeubles, de rapports et de villas somptueuses. Étrange corps de catin. Elle s'étalait dans toutes les directions, toujours vénale, toujours intéressée. Et le paysage fuyait devant elle, rapide et monotone. Elle le pourchassait sans répit, maudit paysage qui s'en allait vomir sa tristesse aux confins des quartiers pauvres. Car là où la misère est trop dense, la ville arrêtait sa marche triomphante. Elle ne prenait que les beaux terrains. Tout ce qui fait la vie confortable et douce lui appartenait. L'air pur, l'eau potable, la lumière électrique, tout lui appartenait. Elle n'avait méprisé que quelques décombres, et dans ces décombres, s'étiolait la vie de tout un peuple.
Un extrait donc des hommes oubliés de Dieu, lu par Eglal Herrera, extrait dans lequel Khosri décrit ces quartiers européens du Caire où l'on s'ennuie beaucoup et où les prostituées lassent jusqu'au trottoir, Frédéric Andreau. Les prostituées, on ne sait pas s'il les a fréquentées, peut-être que oui, peut-être que non. Mais en tout cas, il a eu beaucoup de femmes, Albert Khosri.
Bah oui, parce que son activité principale, c'était quand même de séduire.
Donc c'est un chasseur quand même, les nuits de Saint-Germain.
Oui, absolument, c'était un chasseur. Il fréquentait les endroits comme le Tabou. Enfin, c'était un de ses endroits de prédilection et il y passait des nuits entières. Ce qui empiétait sur ses journées, parce que comme il rentrait très très tard, forcément, dans la journée, il dormait. Et malgré tout ça, il a, dans une soirée, il a rencontré une jeune femme. Ils étaient assis à côté sur un divan et Khosri se tourne vers cette femme et lui dit je voudrais avoir des cacahuètes, est-ce que vous pouvez me passer des cacahuètes? Et le pot de cacahuètes était entre les deux, elle lui dit mais servez-vous, et il lui répond non, je préférerais que ce soit vous qui me les donniez. Et la jeune fille en question donc a croisé le regard d'Albert Khosri et il y a eu un éclair qui s'est fait. Et il se trouve que cette jeune fille en question était comédienne et s'appelait Monique Chaumette.
Elle allait se marier quelques années plus tard avec Philippe Noiret.
Avec Philippe Noiret. Et moi, elle m'a raconté cette histoire. C'était une de mes amies bien des années après, dans les années 2012-2013, quand j'ai écrit ce livre. Monique me dit un jour, tu sais, il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit, mais comme c'était une erreur qu'elle osait à peine avouer, elle me dit, tu sais, avant Philippe, j'ai été mariée une première fois. Et elle me raconte son mariage et sa rencontre avec Khosri. Et elle m'a tellement donné de détails, tellement raconté de choses sur le personnage que je me suis dit, et c'est vraiment là que le déclic s'est fait, lui c'est pas possible, il faut que j'écrive sur ce, il faut que je raconte ça, quoi, parce que c'était incroyable.
Donc c'est l'origine de votre livre alors?
Une des origines. La passion que j'avais aussi pour sa littérature. Mais sur sa vie, elle m'a aidé à nourrir beaucoup de détails, parce que c'était quand même incroyable ce qu'elle a vécu avec lui.
Et des détails qui sont parfois assez humiliants. Parce que Kosri, paraît-il, ne s'intéressait même pas à ce qu'elle faisait professionnellement. Il n'allait jamais la voir au théâtre, par exemple.
Pas du tout, il n'est jamais allé la voir au théâtre, il n'y a jamais fait un cadeau, il ne lui a jamais offert un de ses livres. Il lui disait, alors, Monique lui disait, ah ben, j'aimerais bien lire ton dernier livre. Et il lui répondait, t'as qu'à aller l'acheter. Vous imaginez le goujat que ça pouvait être.
Mais ils se sont mariés.
Ils se sont mariés, ça a été la surprise générale. Ils se sont mariés en 1955 de mémoire.
C'est probable s'ils se sont rencontrés en 53.
À la mairie du 6e arrondissement. D'abord, avant de se marier, ils se sont fréquentés d'une façon complètement incroyable. Donc, on remet les choses dans le contexte. Kosri habitait cette chambre d'hôtel à la Louisiane et il invitait Monique Chaumette à y venir dans la journée, mais pas n'importe quand. Entre ces heures de prédateurs sur le boulevard pour se faire inviter à déjeuner et à dîner. Donc, elle devait venir après le déjeuner et repartir à 19h, parce que 19h, c'est l'heure où il partait pour se faire inviter le soir. Et elle arrivait, la pauvre Monique, elle arrivait dans une chambre qui était fermée, parce que très souvent, comme il avait fait la java toute la nuit, en plus, il n'était pas réveillé. Elle arrivait dans une chambre fermée, elle ouvrait les fenêtres, elle le réveillait. Enfin, il fallait vraiment être très amoureuse, et elle l'était. Et ça a duré un certain temps quand même. Tous les jours, elle venait à la Louisiane. Elle habitait ses parents habitaient dans le 15e arrondissement. Le soir, elle jouait au théâtre, donc elle avait quand même une vie assez, assez remplie. Et puis un jour, elle en a eu assez, quoi. Elle en a eu assez et elle est plus venue. Oui. Et Kosri, quand même, malgré son côté très détaché des choses, s'est inquiété au bout de 2-3 jours. Il est allé chez les parents de Monique Chaumette dans le 15e arrondissement et il a demandé à voir Monique. Et Monique dormait, donc sa mère l'a fait asseoir dans un fauteuil. Elle est allée chercher Monique, elle l'a réveillée, elle dit « Albert est là ». Alors Monique est arrivée tant bien que mal et elle lui a dit « Albert, c'est fini ». Et là, il a eu comme réponse, ça tombe mal parce que j'ai ma chambre d'hôtel à payer à la fin du mois.
Mmh, en effet. Alors, il y avait Monique Chaumette, il y avait les filles parfois la nuit, puis il y avait quand même les amis. Est-ce que vous diriez que c'était un solitaire ou est-ce que tout de même c'est quelqu'un qui vivait, et notamment dans cette quand même période fastueuse de Saint-Germain-des-Prés des années 50-60, qui vivait avec ses amis?
Bah, je ne sais pas si on peut vraiment parler d'amitié, mais dans les années 60, effectivement, il avait des relations avec Nimier, avec Louis Guillou, avec Pomerant, Gabriel Pomerant, avec Isidore Isou. Tous ces gens-là, c'était des gens qu'il fréquentait. Mais est-ce qu'on peut parler d'amitié? Je ne sais pas. En revanche, je pense qu'on peut parler de véritable amitié avec Joël Losfeld, précisément. Mmh. Qui a été quand même...
Donc qui arrive plus tard quand même dans la vie d'Albert Kosri. Qui arrive plus tard,
voilà. Je pense que si on peut parler d'amis, pour Kosri, c'est plutôt sur la dernière partie de sa vie. Il y a eu Sophie Leys, dont vous parliez tout à l'heure. Il y a eu effectivement Joël Losfeld, au passage de belles femmes, hein, comme par hasard. Donc c'est un très vieux monsieur, mais s'intéressait toujours aux belles femmes. Et je pense que là, on peut parler d'amis, effectivement.
Il y a peut-être aussi Georges Moustaki.
Alors, il a eu une relation, oui, avec Georges Moustaki, qui a été une relation amicale. Ils ont fait les 400 coups à Paris. Il faut imaginer la scène de Moustaki sur sa moto. À l'époque, les casques n'étaient pas obligatoires, donc cheveux au vent et Kosri accroché à sa taille en train de parcourir Paris la nuit pour aller dans les endroits de plaisir. Oui, ils ont été très proches. En même temps, ils avaient énormément de différences. Moustaki ne supportait pas la façon dont Kosri traitait les femmes, par exemple, parce que à côté de sa passion pour la beauté féminine, il était goujat comme pas possible avec les femmes.
Oui, et puis avec ses amis aussi, alors, parce qu'il était proche d'Albert Camus, mais quand il est mort, apparemment, personne ne l'a vu verser une larme à ce moment-là.
Non, non, il n'a pas versé de larmes, il ne sait même pas s'il est déplacé, d'ailleurs, pour aller à l'enterrement ou quoi que ce soit. Non, non, pas du tout, c'était son côté goujat, quoi. Et en même temps, il pouvait être... Il avait certainement des émotions, mais il ne les laissait jamais transparaître.
Alors, et Michel Déon aussi, qui le comparait à James Joyce. C'est quand même étonnant de comparer Joyce à Kosri.
Oui, oui, oui. C'est vrai que c'est une comparaison qui m'a toujours un peu étonné.
Et je crois que c'était parce qu'il disait que Joyce avait continué d'écrire sur l'Irlande
sans y
avoir vécu
Oui, c'est
tellement
un,
longtemps.
C'est une comparaison géographique, je dirais.
Oui, parce que Cosri également a toujours travaillé sur ses mémoires d'Égypte et finalement n'a jamais rien écrit sur Paris.
Non, ça c'est une grosse frustration d'ailleurs, parce que j'aurais adoré qu'il pose le regard qu'il a posé sur le Caire, sur la vie qu'il a eue à Paris. Ça serait un témoignage de la vie parisienne incroyable. Il a été quand même tellement longtemps à Paris sans rien y faire qu'il a eu un des plus beaux postes d'observation qui était. Il passait des après-midi entières au Flore à choisir la table bien en vue pour ne pas rater un mouvement des gens qui rentraient et qui sortaient. Alors, ça avait un double but. C'était d'abord de ne rien perdre de ce qui se passait au Flore, et c'était aussi pour repérer ceux qui le salueraient et ceux qui ne le salueraient pas. Et il en tirait des conclusions dont il n'a jamais rien fait, mais c'était quand même une façon de diviser, quoi, de dire, voilà, lui, il est sympa, il me dit bonjour, lui, il m'ignore, je l'aime pas. Et c'était vraiment sa façon de passer son temps. Donc je pense qu'il a dû emmagasiner énormément de choses. Et c'est vrai, c'est pour moi en tout cas une grosse frustration de ne pas pouvoir le lire aujourd'hui.
Alors plus on est Goujat, évidemment, plus on vous propose des choses. Et donc on lui a proposé de tourner comme figurant, figurez-vous, dans La piscine de Jacques Deray.
Exactement, c'était le deuxième boulot dont je voulais vous parler. En 1968, donc le fameux film La piscine avec Romy Schneider, principalement Romy Schneider, mais il y avait aussi Jane Birkin dans le film. Et donc Jacques Deray, qui connaissait l'existence de Cosri, et qui savait qu'il n'avait pas beaucoup d'argent, lui a proposé qu'il vienne faire ce qu'on appelle une silhouette. Un peu plus qu'une figuration, une silhouette.
C'est-à-dire qu'on le voit dans le fond, assis sur un canapé.
Exactement. Plus ou moins. Voilà. Et on le reconnaît d'ailleurs, hein. Quand moi j'ai revu le film il n'y a pas longtemps, et je l'ai reconnu.
Alors il joue bien?
Oui, se lever d'un canapé, on peut tous
Il faut le faire.
Oui, enfin lui, il le fait nonchalamment, mais il le fait bien. Donc, il est parti. Alors, le film a été tourné à Saint-Tropez. Donc, ils arrivent dans l'hôtel où le film se tournait, et le réalisateur avait trouvé que c'était intéressant d'avoir tous les comédiens logés sur place parce que ça évitait d'aller chercher celui qui était en retard, etc. Donc, il loge dans l'hôtel où logeait Romy Schneider, qui était avec Alain Delon à l'époque, et Alain Delon était très présent sur le tournage. Il y avait aussi Jane Birkin, et il y avait la dernière compagne de Jacques Brel, Maddy, qui était aussi dans le film. Bref, donc tout le monde était là. Lui avait un statut un peu particulier, parce que pour une silhouette, on n'aurait pas dû le loger à l'hôtel, mais comme on avait un peu pitié de sa condition, on le logeait avec tout le monde. Et puis on savait qu'il était très sensible au soleil, aux belles femmes et tout, donc on pensait lui faire plaisir. On lui a fait plaisir. Donc il a effectivement fait sa scène où il se levait de son canapé, et puis le tournage s'est terminé, Romy Schneider est parti, Jane Birkin est partie, enfin tout le monde est parti, sauf lui. Lui, il restait à l'hôtel.
Mais personne s'en est vraiment rendu compte. Personne jusqu'au jour où la note est arrivée.
Mais il était à l'hôtel en profitant au maximum. C'est-à-dire qu'il invitait les gens qu'il rencontrait à venir boire des pots, il dînait à l'hôtel, il offrait le champagne à qui voulait. Puis un jour, ça a posé un vrai problème parce que la note montait, il n'avait pas un rond pour payer. Et l'hôtel a rappelé Jacques Deray en lui disant, écoutez, on a quelqu'un du tournage qui restait à l'hôtel, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? La note était faramineuse. Et Jacques Deray, qui avait peur qu'un scandale vienne ternir la sortie de son film, a dit « je paye, je paye ». Et du coup, ils ont viré Cosri une fois que la note avait été payée.
Alors les dernières années de Cosri, Frédéric Andreau, finalement c'est une vie qui reste assez égale à elle-même. Quand on a décrit une journée de Cosri, on a plus ou moins décrit toute sa vie. Il va y avoir quand même effectivement la rencontre avec Joël Losfeld, un passage à nulle part ailleurs, qui va faire qu'à un moment donné, il va devenir incroyable. Une star, ouais. De manière assez inattendue tout de même.
Ouais. Alors la rencontre avec Joël Losfeld, j'aimerais en dire un mot, parce que Joël, à l'époque, était journaliste à Jeune Afrique, et elle avait interviewé des écrivains à propos de l'Égypte, donc elle l'avait rencontré. Et plus tard, quand elle vous le racontera beaucoup mieux que moi, mais enfin, elle a pris la suite de la maison d'édition de son père, et puis après elle a créé sa propre maison d'édition. Et quand elle a créé sa propre maison d'édition, sachant que les droits étaient libres des livres de Cosri, elle s'est dit, elle était tellement passionnée à la fois par le personnage et par ses livres, elle s'est dit, il faut que je récupère, que je réédite tous ces livres. Donc, elle a donné rendez-vous à Albert Cosri. Et vous savez pourquoi, entre autres, Albert Cosri a accepté de signer en deux secondes les contrats de céder ses droits, parce que Joël Losfeld était une belle femme et que ça a suffi à le convaincre. Et c'est comme ça qu'est née leur collaboration. Il a signé tout de suite sur le bord d'une table dans un café, et Joël, du coup, est devenu l'éditrice des derniers jours et elle a fait des très beaux livres d'ailleurs. Elle a réédité.
Elle a quand même repermis à Cossery de redémarrer un public relativement important.
Tout à fait.
Dans une deuxième partie de sa vie. Il y a quand même une question que je me pose et on terminera par ça, Frédéric Andreau. Est-ce que au fond c'est une vie de vide ou est-ce que c'est une vie de plein? Parce qu'on peut avoir le sentiment que malgré les 8 très beaux livres, ça reste quand même quelque chose d'un peu trop aérien.
Bah, répondre à votre question, ça voudrait dire qu'on considère que le vide n'est pas une forme de plein. Et pour moi, le vide, c'est un plein.
Merci beaucoup Frédéric Andreau pour ce premier tour d'horizon du monde d'Albert Cossery. Je renvoie nos auditeurs à votre récit de sa vie. Il est intitulé Monsieur Albert, c'est aux éditions de Courlevour. Et puis nous, on continue demain d'explorer l'œuvre de Cossery. Ce sera avec l'universitaire David Paris en direct de Dublin, où il a enseigné longtemps à Trinity College, ainsi que Joël Losfeld, donc, qui sera là également, qui l'a édité, qui a relancé, on le disait, l'intérêt pour Cossery en France. Tout de suite sur France Culture, c'est le moment de la poésie avec Jacques Bonnafé. Il nous lit des textes du recueil du poète de Claude Bert, « Il y a des choses que non ».
Bonjour, nous sommes avec Claude Bert. Elle vient de faire paraître édition Doucet « Il y a des choses que non ». Et on est bien d'accord. Le mieux est de lui laisser dire pour expliquer un peu. Un jour, l'enfant que j'étais, ne sachant guère de quoi elle parlait, demande à sa grand-mère pourquoi elle avait fait de la résistance. « Ma fille, répond-elle, il y a des choses que non. Tu ne sauras peut-être pas toujours à quoi dire oui, mais sache à quoi dire non. » Je ne sais pas si j'ai su, mais j'ai essayé. Et nous, nous voilà sur la piste. Page. Il est dur de dire le simple, l'émotion ténue, la crainte que demain nous ne détruisions l'entier de la terre et pour la première fois peut-être l'angoisse de la mort de l'espèce plus grande que celle de sa propre mort. Plutôt il y avait mystère de ce qui se vit et que seule nous, la langue résistante, la langue consistante, la langue nourrissante, la substantifique langue de la moelle des mots et des morts, où résiste la langue au mirador, où résiste la langue à l'obscénité de transparence, où résiste la langue à l'asservissement, où résiste la langue à l'avilissement, où résiste la langue sous la dent et qui enferme le poème en bouche dans la langue du bouc qui broute le charbon dur, langue de bouc et de boue, main du mort et du vif entrecroisée à la fable du poème, mêlée au broyeur des molaires, dans l'arc-en-ciel des fontaines où se noyait le sable rouge et le silex étoilé, jamais résistance n'eut pour l'enfant sens de refus, mais bien plutôt d'élan allant, celui du pas du père allant. Mon histoire serait autre si je ne devais aux deux René une résistance tenace héritée du père et du poète à la langue rétive. Et voici pour Claude Bert, comme une présence, un texte de René Char. Tu es pressé d'écrire, comme si tu étais en retard sur la vie. S'il en est ainsi, fais cortège à tes sources. Hâte-toi de transmettre ta part de merveilleux, de rébellion, de bienfaisance. Effectivement, tu es en retard sur la vie. La vie inexprimable, la seule en fin de compte à laquelle tu acceptes de t'unir, celle qui t'est refusée chaque jour par les êtres et par les choses, dont tu obtiens péniblement de ci de là quelques fragments décharnés, au bout de combats sans merci, hors d'elle tout n'est qu'agonie soumise, fin grossière. Si tu rencontres la mort durant ton labeur, reçois-la comme la nuque en sueur trouve bon le mouchoir aride, en t'inclinant, si tu veux rire, offre ta soumission. Jamais tes armes. Tu as été créé pour des moments peu communs. Modifie-toi, disparais sans regret, au gré de la rigueur suave. Quartier suivant quartier, la liquidation du monde se poursuit, sans interruption, sans égarement. Et sème la poussière. Nul ne décèlera votre union.
la poésie de Claude Berre, lue par Jacques Bonafé.